kele, ọkọ bunu kele, nka mi kele.
I don't mean that. I go keep up the adam. When you have no come on, call no check. I can never mind. When you have one more, hey, you worry.
She said she never seen the
hola.
When they sing like me, she said she never seen nobody. When they sing like
give me today, come on now. See her back, yo, you made it up. Give me today, come on now. See her back, yo, you made it up. Oh, no, no, me, no.
De la paix. Il est 18h. Le journal de 18h. César Yao.
Bonsoir à tous. Tout de suite, le sommaire de ce jeudi 18h. Le PPACI, Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, invite le gouvernement ivoirien à un dialogue politique avec pour objectif de régler par la discussion la question de la réinscription de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo sur la liste électorale. La quintessence de cette invite avec Okey Desjean-Gervais, secrétaire général du PPACI, dans ce journal. Ce jeudi 21 mars 2024 a lieu la journée internationale des forêts célébrée autour du thème « Les forêts, l'innovation, de nouvelles solutions pour un monde meilleur ». Cette journée a pour rôle de sensibiliser l'opinion en faveur de la préservation, la réhabilitation et la gestion durable des écosystèmes forestiers. Dans l'actualité internationale présidentielle au Sénégal, les deux principaux candidats, Amadou Ba, soutenu par le parti au pouvoir, et Bassirou Diomaye Faye, porté par Ousmane Sonko, figure majeure de l'opposition, se livrent une bataille sans merci sur le terrain politique. Les échos de cette bataille politique dans ce journal avec Abdourahman Diallo, notre confrère de la radio Sud FM à Dakar. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Le PPACI, Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, par la voix de son secrétaire général Thierry Jean-Gervais, invite le gouvernement ivoirien à un dialogue politique. Objectif réglé par la discussion, la question de la réinscription de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Nous l'écoutons.
Il s'agit d'une question politique qu'il nous faut régler par la discussion politique. Nous sommes dans cette position, dans cette posture, parce que nous pensons que la Côte d'Ivoire a assez souffert des divisions, des querelles liées à la conquête du pouvoir, notamment aux questions électorales, et qu'après ce que nous avons traversé au cours des deux dernières décennies, nous devons avoir la sagesse, honnêtement, de nous asseoir pour discuter. Et donc, nous sommes dans la posture de demander l'ouverture d'une discussion politique avec le gouvernement. Au total, il nous faut discuter. C'est ce que nous on met en avant dans un premier temps. Donc, la question, on la règle avec le gouvernement. On préfère la régler avec le gouvernement plutôt que contre le gouvernement.
Vous avez donné un délai pour que cette discussion s'ouvre?
Pour l'instant, nous ne mettons pas de délai parce que quand on veut faire les choses de façon pacifique, on ne met pas de délai. On demande l'ouverture du dialogue politique pour régler la question. C'est ce que nous allons faire avec le gouvernement. Il appartient au gouvernement maintenant de nous donner le délai dans lequel il compte ouvrir la discussion. Mais il est évident que pour nous, le plus tôt sera le mieux.
Voilà, Kédéjean Jean-Gervais, secrétaire général du PPACI, était avec Constant Maïlé. Parmi les mesures d'accompagnement annoncées lors du dernier conseil des ministres pour les habitants des quartiers précaires récemment délogés lors du déguerpissement mené par le district autonome d'Abidjan, figure le point 5 qui cible directement un appui aux jeunes impactés. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service social civique a ainsi rencontré les représentants des déguerpis et des mairies de Yopougon à Tekoubé à Djamé, le district d'Abidjan, mais également les ministères sectoriels concernés. On en parle avec Mata Touré.
Il s'agissait de jeter les bases de la réflexion sur les mesures pouvant être apportées pour accompagner ces jeunes impactés par les déguerpissements vers une réinsertion économique. Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique.
Nous avons décidé de mettre en place un groupe de travail qui, dans les 10 prochains jours, donc, devra nous proposer donc, des mesures concrètes d'accompagnement donc, de ces personnes. Bien évidemment, ils devront être identifiés, faire en sorte que ne soient pris en compte que les vrais bénéficiaires et que ce ne soit pas un appel d'air et donc qui appelle donc tout le monde.
De leur côté, les mairies avaient déjà commencé ce travail avec une principale difficulté. Ligoué Émile et de la mairie d'Atikoubé.
La difficulté, c'est que si nous ne sommes pas vigilants, nous allons léser ceux qui sont concernés directement. Certains jeunes voulaient en profiter pour se faire enrôler. Et nous avons dit non. Nous avons mis un dispositif pour vraiment filtrer, C'est pourquoi nous travaillons en collaboration avec les collectifs des différents quartiers. Nous-mêmes, les élus, sommes là avec les jeunes, les organisations de jeunesse de ces différents quartiers, même les organisations des femmes, parce que c'est eux qui se connaissent dans le quartier.
Le ministère de la Jeunesse qui rappelle qu'il existe un dispositif national de réinsertion qui concerne non seulement ces communes déguerpies, mais également l'ensemble des jeunes de Côte d'Ivoire.
96 ex-migrants ivoiriens qui ont été volontairement rattrapés, sinon rapatriés. Voilà, récemment, ici en Côte d'Ivoire, ont reçu hier mercredi à Abidjan des chèques d'un montant global de 98 770 000 francs CFA au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique. Mamadou Touré a profité de cette cérémonie pour encourager ces jeunes à ne pas s'engager dans la voie de l'immigration irrégulière. Une autre alternative est possible. Nous l'écoutons.
C'est vrai que cette cérémonie voit des remises de chèques, mais juste dit qu'on n'a pas besoin forcément de tactique pour recevoir donc des chèques. Puisque le dispositif mis en place par le gouvernement vise à accompagner tous ces jeunes qui viennent en programme, qui ont besoin d'un accompagnement dans leur parcours d'insertion professionnelle, est un dispositif qui existe. Et donc, qui est profitable à tous les jeunes. Donc, n'attendez pas de partir, de vivre des drames avant de venir bénéficier de ce dispositif. Vous pouvez tout de suite aller vers les guichets emploi, les agences régionales, les assemblages jeunes, et bénéficier donc de ce dispositif. Vous avez vécu des choses, vous êtes dans des conditions difficiles. Il est important pour vous d'être l'ambassadeur du gouvernement, vous expliquer bien à vos amis que les durables ne sont pas forcément ailleurs. Et nous sommes prêts à vous accompagner donc, dans cette campagne donc, de sensibilisation. Ensuite, pour terminer, vous demandez de bien utiliser les ressources qui sont mises à votre disposition. Ce n'est qu'une première étape. Vous recevez des ressources pour soit initier des activités ou renforcer des activités. Mais après la bonne utilisation de ces ressources, vous avez toujours la possibilité de redemander encore donc des ressources complémentaires pour faire vos activités. Il faut juste justifier la bonne utilisation des premières ressources que vous utilisez dans votre disposition.
Voilà, c'était Mamadou Touré, ministre ivoirien de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, Adama Diawara, appelle le secteur privé ivoirien à aider l'État à financer au moins à 1% de son PIB les projets de recherche pour le développement. C'était ce jeudi même à Abidjan lors de la cérémonie de la troisième édition de la présentation des résultats de recherche de 10 chercheurs ivoiriens cofinancés par la Côte d'Ivoire via le Fonds STIF, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. Et la Suisse, on en parle avec Francis Cassie.
Les 10 chercheurs ivoiriens sélectionnés pour cette troisième édition sont passés successivement à un pupitre pour vous présenter les travaux de leur recherche, dont Dr Cissé Moussa. maître de conférence à l'université d'Ngouya Bourgoua d'Abidjan.
J'ai présenté la conception d'un modèle de pisciculture en sol pour les régions du nord, parce qu'au nord, le problème c'est l'eau. Et ce modèle-là fait qu'on peut faire l'aquaculture partout. Elle était financée par le FONCD, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, avec la Suisse. Donc la suite, c'est que les mairies, les conseils régionaux, les privés ou un bailleur de fonds, n'importe qui est intéressé par ce modèle-là, peut être implanté chez lui, le tout étant de produire beaucoup de poissons pour qu'il n'y ait plus de problème de sécurité alimentaire.
Président de la cérémonie, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a soutenu ceci en faveur de la recherche ivoirienne. Adama Diawara.
On a pris l'exemple des pays d'Asie. C'est simple, hein. Ils ont investi énormément dans la recherche. Ces pays qui consacrent entre 3 et 4% de leur PIB à la recherche et développement, il faut savoir que les 3/4 du financement proviennent du secteur privé. Ce n'est pas l'État, mais il faut savoir que l'État fait ce qu'il peut. Maintenant, ce qu'on demande, c'est que le secteur privé mette un peu plus la main à la poche. Parce que le 1% qu'on vise, évidemment, il y a la part étatique, il y a la part des partenaires au développement, mais il y a surtout la part qui doit émaner du secteur privé.
Présente à l'événement, l'ambassadrice de Suisse en Côte d'Ivoire, Anne Lugon-Moulin, a exhorté le secteur privé ivoirien à s'approprier les résultats des recherches.
Environnement à présent, à l'instar des pays du monde entier, la Côte d'Ivoire a célébré aujourd'hui, jeudi à Abidjan Plateau, la journée internationale des forêts autour du thème « Les forêts et l'innovation, de nouvelles solutions pour un monde meilleur ». Cette journée a pour rôle de sensibiliser l'opinion en faveur de la préservation, la réhabilitation et la gestion durable des écosystèmes forestiers. Les Échos avec Didier Blé.
Cette célébration 2024 de la Journée internationale des forêts survient dans un contexte qui nous interpelle, avec cette incroyable vague de chaleur qui touche une grande partie du globe. Colonel Alain Guessant, directeur de la police forestière.
Nous avons perdu une bonne partie de notre couverture forestière, mais le ministère des Eaux et Forêts a engagé d'énormes efforts et nous continuerons à déployer nos équipes sur le terrain.
Les forêts, symboles de vie et de régénération, sont au cœur du patrimoine naturel ivoirien. Elles jouent également un rôle crucial dans la régulation du climat, mais des inquiétudes demeurent. Laurent Tchagba, ministre ivoirien des Eaux et Forêts.
Face aux défis croissants du changement climatique, de la déforestation et de la perte de biodiversité, il est impératif que nous regardions vers l'avenir. Moteur de progrès, l'innovation se présente comme un allié sûr.
L'innovation devient un allié indispensable sous multiples formes. Création de drones déversant des graines de reboisement, cartographie des terres, mais aussi des paiements pour services éco. Systémique. Marc Debré, fondateur de l'ONG Green Invest Africa.
Il faut donc pouvoir évaluer que l'arbre qui a été planté s'est bien développé. La Green App permet de confirmer le développement de cet arbre, mais en plus de réaliser le paiement pour le compte du producteur ou de la communauté ou de la coopérative.
Avec 16 millions d'hectares de forêt en Côte d'Ivoire dans les années 1900, il ne reste plus que 3 millions d'hectares en 2024, d'où l'urgence de développer des approches innovantes pour atteindre le taux de couverture forestière de 20% que ces fixé la Côte d'Ivoire.
Direction l'intérieur du pays, les autorités politiques et administratives de Daloa ont procédé récemment à l'inauguration d'une nouvelle institution financière. Pour le sous-préfet central de Daloa, il s'agit d'une nouvelle opportunité pour les opérateurs économiques de la région d'accéder au crédit et développer leurs activités. Une opportunité également pour les responsables de cette nouvelle banque de promouvoir la notion d'inclusion financière dans le Haut-Sassandra et présenter aux opérateurs et petits commerçants les facilités d'accès au crédit. Compte rendu signé Jean-Noël Kwame.
Au cours de cette cérémonie, l'agent au maire de Daloa, Nza Sida, a mis en avant le potentiel économique de la région.
De voir les institutions financières s'augmenter nous montre que Daloa a un potentiel qui permettra à l'économie d'être boostée. Nous avons bénéficié des 20 km de goudron. Ça va permettre l'accès facile de ces institutions financières par les usagers. Daloa est beaucoup sollicité. Nous avons plein de demandes sur notre table. Nous les étudions et nous voyons qu'est-ce qui peut arranger la population.
Quant au sous-préfet central de Daloa, Masouba Meï, il a encouragé les commerçants et autres opérateurs économiques à explorer cette nouvelle opportunité de financement de leurs activités.
Ça permet de donner une large possibilité aux opérateurs économiques de pouvoir faire des affaires dans les banques de leur choix.
Le promoteur Christian Fauguin, quant à lui, entend faciliter l'accès au crédit aux petites et moyennes entreprises de Daloa.
C'est une ville en pleine expansion. Pour les transporteurs, nous avons des produits de leasing, nous avons des produits digitaux qui permettent aux gens de plus se déplacer. Pour les particuliers qui n'ont pas de contrat à durée durée indéterminée, nous pouvons financer des individuels qui ont des contrats à durée déterminée. Sur une période, les commerçants qui n'ont pas suffisamment de garantie, nous pouvons financer avec un système qui leur permet de constituer progressivement leur garantie. Notre leitmotiv, c'est de permettre d'accéder au crédit. C'est des PME qui constituent la force d'une économie. Nous sommes spécialisés dans le financement des petites et moyennes entreprises.
Commerçants, transporteurs et autres opérateurs économiques ont été sensibilisés sur l'accès au crédit et l'inclusion financière pour le développement de leurs différentes activités. Jean-Noël Kwame, d'Aloha, Radio de la Paix.
En vue de se rendre compte du respect des prix et de la disponibilité des produits en cette période de carême chrétien et de jeûne musulman, le directeur régional du commerce, de l'industrie et des PME en collaboration avec l'OCPV a visité certains marchés de Boaké. Le récit de Joseph Fassalé, notre correspondant régional dans le Boaké.
Au terme de la ronde dans les dépôts de marchandises, dans les espaces commerciaux et sur les marchés de Boaké, le directeur régional du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME dresse le constat suivant. Mamadou Fatiga.
Les marchés sont approvisionnés, suffisamment approvisionnés, mais nous faisons aussi également le constat avec vous qu'en plus, il n'y a pas de pénurie et il n'y a pas également de tendance inflationniste.
Bien plus, il les révèle.
Nous avons fait le constat qu'il y a certains produits qui sont vendus à des prix en dessous de ce que le gouvernement a indiqué. Cela va donc à l'avantage des consommateurs, le jeu de la concurrence. Donc, c'est la dialectique de l'offre et de la demande. En ce moment, les prix pèsent de façon inductive. Ça va de soi.
Le directeur régional de l'OCPV, Office ivoirien pour la commercialisation des produits vivriers de Boaké, se réjouit pour sa part de voir les étals achalandés. Norbert Nguessan.
Tout à l'heure, nous avons fait le marché de Bramakouté. On a constaté que les marchés sont approvisionnés en produits vivriers et aussi les prix sont abordables.
En revanche, un autre son de cloche que l'on entend en provenance des commerçants de vivriers rassure peu.
Tout a augmenté. Le sac d'oignon à 45 000. Quand on détaille, l'argent ne sort pas.
Moi, là, on appelle ça 100 bons. Les petits sont à 2500. Les grands sont, c'est 7500, mais derniers, puis 7000. Deux fois, là, les petits sont, on fait ça 1000 francs, deux fois 1500, deux fois 2000 même. Ça augmente, ça descend.
Au demeurant, il faut noter que dans l'ensemble, les prix des marchandises sont stables. Joseph Assalé, Boaké, Radio de la Paix.
Retour à Abidjan pour parler de la traversée du quatrième pont qui présente des dangers pour les piétons qui s'y aventurent. Pour cause de l'absence de passage et de pont piéton, et bien pour saisir l'ampleur des risques auxquels s'exposent les riverains usagers de cet ouvrage routier, Mel Emmanuel s'est rendu sur place. Voici son reportage.
En arrivant sur les lieux, le spectacle auquel nous assistons est effrayant.
C'est dangereux même.
Des voitures lancées à vive allure esquivent de peu les piétons qui, eux aussi, s'aventurent sur la voie en courant, passant d'un côté du pont à l'autre. Les raisons qui amènent les riverains à prendre cette route sont diverses. Conan Ariel, élève en classe de première A dans une école de la place, nous explique les siennes.
Quand on passe ici, ça nous permet de mieux arriver à l'heure. Cette voie est rapide. On préfère emprunter cette voie.
Comme Ariel, ils sont nombreux à s'exposer à cette traversée dangereuse des voies du 4e pont d'Abidjan, surtout aux heures de grande affluence.
Généralement, les matins, aux environs de 7 heures, c'est pas facile.
Pour traverser même à ces problèmes, la nuit même, les voitures viennent en flèche.
Vous êtes obligé de passer, c'est qu'il n'y a pas d'autre voie.
Non, on est obligé de passer.
Répond Jonas, un riverain qui profite de notre micro pour pousser son cri de cœur.
C'est trop dangereux pour nous. Nous, on peut dire qu'on est grand et les enfants. Il y a les enfants qui traversent, avant de traverser, ils montent là et courent en même temps. Vous voyez, la voie est dangereuse pour eux. Si eux peuvent faire un piéton pour nous, ça va nous arranger.
Entendez par là des passages ou des ponts pour les piétons. Malgré tous ces dangers, les riverains nous ont assuré qu'aucun drame n'est survenu à ce jour. À titre de rappel, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a invité les usagers du 4e pont d'Abidjan à la prudence, car les travaux de l'ouvrage ne sont pas encore terminés.
Dans l'actualité internationale présidentielle au Sénégal, les candidats sont sur le terrain depuis le début de la campagne. Tout de suite, les échos de ce qui se passe au pays de la Teranga avec Abdourahmane Diallo, notre confrère de la radio Sud-FM à Dakar.
Alors que la présidentielle du 24 mars au Sénégal se profile à l'horizon, le pays est plongé dans l'effervescence de la campagne électorale. Les deux principaux candidats, Amadou Ba et Bassirou Diomaye Faye, sont au centre des attentions, incarnant respectivement les intérêts du pouvoir en place et de l'opposition. Amadou Ba, candidat soutenu par le parti au pouvoir, et Bassirou Diomaye Faye, porté par Ousmane Sonko, figure majeure de l'opposition sénégalaise, se livrent une bataille sans merci sur le terrain politique. Tous deux, issus des impôts et des domaines, leur camp se livre une rivalité qui s'est intensifiée au fil des années, culminant aujourd'hui dans une confrontation électorale décisive pour l'avenir politique du pays. Cette campagne électorale, marquée par des joutes verbales passionnées et des promesses électorales ambitieuses, touche à sa fin alors que la date fatidique approche. Vendredi marquera la clôture officielle des activités de campagne, laissant place à la réflexion des électeurs sénégalais quant à leur choix crucial lors du scrutin. Abdourahmane Diallo, Dakar, pour la Radio de la Paix.
Voilà, c'était donc Abdourahmane Diallo, notre confrère de Radio Sud FM au Sénégal. Et puis au Mali, l'électricité revient petit à petit dans la ville de Gao, la première ville du nord du pays. Près de 370 000 habitants étaient totalement privés de courant depuis le 8 mars dernier, il y a presque deux semaines, en raison d'un important incident technique sur les infrastructures de l'EDM, la compagnie nationale d'électricité. Mais depuis hier soir, la situation est redevenue presque normale. Le gouvernement britannique reporte la loi Rwanda. La ministre chargée des relations avec le Parlement le confirme aujourd'hui jeudi. Elle doit permettre de reconnaître le caractère sûr de ce pays et ainsi permettre d'y délocaliser son système de demande d'asile. Un projet sur lequel le gouvernement conservateur mise sa crédibilité et qui est pour l'instant bloqué par la justice. Voilà, c'est la fin de ce jeudi 18h, le rappel de l'essentiel. Le PPACI, Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, invite le gouvernement ivoirien à un dialogue politique avec pour objectif de régler par la discussion la question de la réinscription de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Ce jeudi 21 mars 2024 a lieu la Journée internationale des forêts, célébrée autour du thème « Les forêts et l'innovation, de nouvelles solutions pour un monde meilleur ». Cette journée a pour rôle de sensibiliser l'opinion en faveur de la préservation, la réhabilitation et la gestion durable des écosystèmes forestiers. Et puis à l'instant même, dans l'actualité internationale présidentielle au Sénégal, les deux principaux candidats, Amadou Ba, soutenu par le parti au pouvoir, et Bassirou Diomaye Faye, porté par Ousmane Sonko, figure majeur de l'opposition, se livre une bataille sans merci sur le terrain politique. Fin de ce jeudi 18h sur Radio de la Paix. Prochain rendez-vous demain vendredi 7h. Tout de suite, le magazine Santé pour tous avec Paul Bénédicte Boulou.
Santé pour tous. Santé pour tous.